Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Vous savez, le podcast consacré à la littérature érotique. Alors cette semaine, bon, pour vous à l'écoute, ça va pas changer grand-chose, mais pour moi, ça change pas mal de choses. Je vous explique, je vous raconte un petit peu ma vie. Voilà, à chaque fois que je prépare un podcast pour une lecture érotique, eh bien, je lis le bouquin en entier, je prépare un article, etc., etc., et je vous lis un extrait. Sauf que ces derniers temps, les lectures érotiques se sont un petit peu distendues parce que j'ai pas forcément le temps de lire un nouveau livre à chaque fois, chaque semaine. Du coup, plutôt que de laisser les choses traîner en longueur, je me suis dit, mais pourquoi ma petite Charlie ne pas prendre un extrait au hasard d'un livre que tu as déjà lu? Comme ça, pas besoin de réécrire un article, puisque c'est déjà fait. Si vous voulez en savoir plus sur l'auteur, vous avez toutes les infos sur mon site. Et bah, du coup, vous découvrez un autre extrait pris totalement au hasard. En fait, je me suis inspirée... Je participe à un autre site qui s'appelle projet-lapasserelle.com où je fais aussi un podcast qui s'appelle Au hasard Balthazar. Si vous voulez aller le découvrir, n'hésitez pas, projet-lapasserelle.com. Et c'est comme ça que je fonctionne en fait. Je prends un bouquin au hasard, j'ouvre et hop, c'est Au hasard Balthazar sur quoi on va tomber aujourd'hui. Du coup, j'ai été dans ma petite bibliothèque érotique, j'ai fermé les yeux, j'ai tendu la main et je suis tombée sur pif paf poum. À volonté de Léa Rivière, un roman qui est paru aux éditions Blanches. C'est un roman qui m'avait particulièrement accroché. Est-ce que c'est un roman érotique? C'est un roman qui parle surtout d'humains. C'est le journal intime d'une nénette, en fait, qui a une espèce de maladie, on pourrait associer ça à de la bipolarité, qui a donné un nom à sa maladie, elle l'appelle Al, et qui explique comment, c'est quoi sa vie au quotidien, ses envies, ses pulsions, comment elle gère, etc., etc. Un très beau livre, très poignant, très fort, une écriture que j'aime beaucoup. Voilà, du coup, c'est tombé là-dessus, et l'extrait que je vais vous lire, alors attention, ça peut-être choquer certaines personnes, moi ça me choque pas, mais... Voilà, c'est parti, je vous lis un extrait, vous allez découvrir ça. On arrive en plein chapitre 10, à volonté de Léa Rivière. Avoir des jumelles correspondait à ma personnalité. Je ne pouvais pas faire les choses à moitié. Je n'aurais pas eu un enfant mou, moyen, mignon. J'avais des diamants, des perles. Sophia, Zoé, leurs prénoms caressaient mes oreilles et résonnaient en moi comme la plus douce des symphonies. Et je n'éprouvais jamais autant de plaisir, y compris dans les bras d'un homme, qu'en faisant la sieste avec elles. L'odeur de leur transpiration sur les oreillers trop gros pour elles, leur peau laiteuse et hâlée à la fois, leurs petites côtes qu'on voyait saillir à travers leur robe de nuit, tout en elles était parfait, tout inspirait la vie. Leur proximité m'enivrait et me submergeait de vagues de plaisir comparables à l'orgasme. Et en même temps que ces sentiments de béate adoration, je les détestais profondément. Trop souvent, je les voyais comme deux boulets chargés de lester ma chaîne, leur père, d'esclaves. Elles m'avaient privé de l'usage de mon corps plusieurs mois après leur naissance. J'avais dû sacrifier à contre-cœur des litres de mon sang, mes seins, mon lait, mes nuits, mon sommeil, mes souhaits, mon amoureux, mes sorties. Et voilà qu'elle me prenait aussi mon temps, mon énergie, mes pensées, ma personnalité. Je vivais dans la peau d'un prisonnier de camp de concentration. J'avais été contrainte d'uriner via une sonde, de vivre sous perfusion, de m'injecter de la morphine. On m'avait retiré mon identité, mon prénom et mon nom, pour me baptiser d'une appellation codée commune à mes co-détenus et moi, maman. Comme à Dachau, elle pouvait me pisser dessus, me vomir dessus, me recouvrir d'excréments ou m'arracher des cheveux par poignées. Et chaque fois que le sommeil me prenait à lui, j'étais réveillée en milieu de cycle par leurs cris exigeants et stridents. Je ne haïssais aucun autre son autant que leur « maman » gémissant. Quand je venais de m'installer face à mon ordinateur, une phrase bien tournée accouchait sur le clavier. Me levant, allant répondre à leurs misérables petits besoins, relancer un dessin animé, apporter un biberon, j'oubliais mes propres mots. Pour le cas où je me serais laissé aller à des sentiments trop primaires, j'avais un rappel sur moi. Je gardais une cicatrice de 8 points, comme on disait à l'hôpital, qui me tiraillait le périnée les jours de fatigue et m'obligeait à vérifier la longueur des ongles de mes amants. Si les obstétriciens prenaient conscience du fait que les femmes qu'ils sont en train d'accoucher sont les mêmes qui s'envoient en l'air avec eux, peut-être diminuerait-il le nombre d'épisiotomies. Al a peur de mon frère, je crois. Il ne reste pas longtemps en sa présence. J'ai une semaine de répit. Chapitre 11. Mais en fait, quand je dis que je n'aime personne, c'est un mensonge. Je ne fais l'amour qu'avec des hommes que j'aime. Enfin, presque qu'avec des hommes que j'aime. Il y a au moins une fois où je n'aimais pas spécialement mon partenaire. Il m'intéressait d'un point de vue, sinon physique du moins, sexuel. Intellectuellement, X et moi, nous n'avons rien en commun. Je ne suis même pas sûre qu'il comprendrait le mot « intellectuellement ». Il est basketteur. Je suis au lycée en face du Parc des Princes, à 2 pas de l'endroit où s'entraîne le Racing Club de Paris. Depuis 1 an, on se cherche et on se rate. On se regarde, on se croise, on se dit « Quoi ? Ça va ? Et toi ?» Un jour, il m'avait donné un papier avec son numéro de téléphone. Mon petit ami de l'époque l'avait déchiré et je n'avais jamais pu l'appeler. Je ne sais plus comment on a repris contact. Je crois qu'on s'est croisés en avril autour de la place de la Porte de Saint-Cloud. Il mesure plus de 2 mètres de muscles énormes, les plus gros que j'ai jamais vus. Il est habillé comme on peut l'imaginer, un peu caricaturalement, avec une chaîne en or, un tout petit téléphone Nokia, des baskets et un maxi t-shirt. Je viens de me séparer du petit ami qui avait déchiré son numéro de téléphone. J'y vois un signe du destin et j'accepte un rendez-vous, un jeudi après les cours, dans le 15e. Je ne comprends pas ce qui l'attire chez moi. Autant je conçois que des hommes puissent être séduits par mon côté entraînant, tonique, par mes conversations, autant clairement lui s'en moque. C'est donc purement physique et ça restera un mystère. N'y voyez pas de fausse modestie, je peux séduire n'importe qui, n'importe quand, en discutant. Mais lui et moi n'avons jamais parlé. Tout ce qu'il voit de moi, ce sont mes grosses fesses d'ado moulées dans un pantalon Pimki, mes Nike Air et mes petits hauts. Rien de super attrayant. Après, il me dira « Tu ris tout le temps, tu parles fort avec tes copines, t'es entraînante, c'est sexy. » Je trouverais ça un peu ridicule comme compliment. Le poissonnier du marché aussi parle fort. Est-ce qu'il l'invite aussi chez lui ? Ce qui m'attire chez lui, c'est clair, son corps. Je ne me souviens même plus de son visage, alors que je peux encore visualiser son sexe, un peu tordu au bout, comme s'il était trop grand pour rester droit. Notre rendez-vous fixé, il s'y présente avec un ami et m'indique que nous allons aller chez lui. Je dis « Ok ». Son ami est noir aussi, petit, et il m'apprend qu'il est champion de France de kickboxing. Je dis « Super », sur un ton qui montre clairement que je m'en fous. Ce n'est pas un entretien d'embauche et s'il imagine intégrer son ami dans je ne sais quel jeu sexuel, il se fourvoie. Sur le chemin jusqu'à chez son ami, il s'évertue encore et toujours à faire la conversation. Et ça m'énerve. Je n'ai pas envie de faire cet effort. On sait tous les deux pourquoi on est là. Arrivé dans le salon, il me propose de boire quelque chose. Je réponds non, poliment. Il va mettre de la musique, ce que je trouve ridicule. Un genre de zouk dont les paroles doivent être « Reste avec moi ce soir, oh yeah !» Quel besoin éprouve-t-il de jouer ce jeu stupide ? Son pote va s'asseoir et lui dit un truc en créole. Il rigole et se tourne vers moi. « Je te raconterai ce qu'il a dit. » Je lève un sourcil et réponds « Non, ce n'est pas la peine, on y va ?» Je m'en fous de ce que son pote lui a dit, moi. Et puis, je n'ai pas envie d'entendre un mensonge. Je ne vois plus Al à cette époque et je n'ai pas besoin de lui. On part à côté dans une petite chambre. Il me fait 3 compliments appris par cœur. Il me demande si j'ai des frères et sœurs. Je lui réponds que je ne suis pas là pour parler de mes frères et sœurs, que ma mère est morte et que mon père est adjoint au maire de Paris. A-t-il d'autres questions ? Il n'a pas d'autres questions. Il est 17h, je dois rentrer chez moi avant 20h, sinon mon père va s'alarmer. On n'a pas de temps à perdre. J'enlève mon mini sac à dos Nike noir avec des bandoulières, le pose par terre, remonte mes manches et sourit. Il s'approche et m'embrasse. Je me laisse faire, lui rend son baiser. Je pose ma main sur son bras qui doit faire 3 fois le mien au moins. Je mets mon cerveau sur off. Enfin, je me détends. Il me caresse les épaules, le dos, le ventre, tente de glisser sa main dans mon pantalon. Je le stoppe. « Non !» Il me dit « Pourquoi ?» Je réponds « Parce que. Prends ce que je te donne et sois content, ou ne prends rien. » Je sais déjà ce qu'on va faire. J'ai juste envie de le sucer, comme je m'offrirais un bon éclair au chocolat en guise de consolation. C'est tout. Je n'ai pas envie de jouir, de lui dire des mots doux. J'ai juste envie de reprendre la main sur ma vie et d'oublier les dernières semaines. Je me blinde. Avec un sportif professionnel, je suis sûre de trouver ce que je suis venue chercher. Du sexe, du réconfort, un sextoy humain, pas d'attachement, pas de conversation. Aucun risque de tomber amoureuse. Émotionnellement, je suis dans le déni le plus total. Pas question que mes émotions actuelles puissent m'anéantir. Ne me secouez pas, je suis pleine de larmes. Je ne veux pas qu'il glisse la main dans mon pantalon, parce que je suis en train de faire une fausse couche. Je viens de voir se terminer une relation de 2 ans, une éternité à 16 ans, la veille du jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Incrédule, j'ai vu le test de grossesse passer du bleu au rose. La prise de sang. Moi qui me réjouis d'avoir un bébé, je vais arrêter le lycée, travailler au McDo, j'ai même vu des petites annonces. Pour 2000 francs, je peux prendre un studio avec mon bébé. Je dis à mon père qui supplie, qui crie, qui hurle, qui demande, qui se met à genoux, qui ordonne, qui implore, dit « Si ta mère était encore vivante !» Je tiens bon. Je promets d'aller à un rendez-vous médical pour m'informer sur l'IVG, mais je préviens mon père que je n'avorterai pas. Le rendez-vous dans un hôpital glauque du 10e arrondissement. « Docteur, je ne veux pas avorter. Je veux garder ce bébé. » Le regard noir de mon ex-petit ami que je trouve subitement très laid et très con. Et le regard plein de compassion, de pitié aussi sûrement, de la gynécologue qui finit de m'examiner. Ses gants en plastique blanc plein de sang qui se reflètent dans la lumière crue des néons. Et sa bouche qui dit « Mon petit, vous êtes en train de faire une fausse couche. Je ne suis pas son petit. Je ne veux pas de sa pitié et je ne veux pas de sa fausse couche. » Je passe les jours suivants à me laisser aller de main en main, de rendez-vous en rendez-vous, de prise de sang en prise de sang. Je m'entends répondre à la prof de maths qui s'insurge de mon absence en cours et me demande ce que j'ai fait de mon temps. « J'ai baisé 3 jours non-stop. » Heureusement, malgré mon traitement, j'ai gardé cette capacité à m'évader de la réalité quand elle ne me convient pas. Et à cet instant, je m'évade. X-Med. Je chasse ses souvenirs de ma tête. J'accroche un sourire sur mon visage. Son sexe est énorme, le plus grand que j'ai vu à ce jour. Il mesure 2,15 m de muscles et à un moment, j'essaye même de mesurer son sexe dans ma tête. Ses bras ont un diamètre hors norme et chaque muscle de son corps est sculpté par son activité. Un cours de biologie ambulant. Et s'il était une pute gars et que je doive le payer au poids, combien je lui devrais alors? Il s'allonge. Les avant-bras tendus évoquent une belle bite musclée. Je les caresse pendant que je le suce. J'ai l'impression de toucher d'autres sexes. Je crois que son corps tout entier est un sexe énorme. Un sexe de 2,15 m, putain! Lucky me, je pense, et j'ai dans la tête « I should be so lucky, 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 lucky » de Kylie Minogue, et j'essaye de trouver les notes en même temps. J'essaye aussi d'attraper son sexe dans ma bouche, mais il est trop gros et je pense à trop de choses en même temps. J'ai l'impression qu'il va m'arracher les amygdales. Je recule et le prends dans ma main, puis le glisse de côté. Je ne suis pas du tout excitée. Comment cela se fait-il? Je suis allongée à côté du plus beau spécimen mâle de tout le 16e Sud. Mon amant a le sexe le plus gros qu'on puisse imaginer. Il m'embrasse en me disant des compliments et je ne suis pas excitée. Quand soudain, son copain. Une paire d'yeux derrière la porte. Il a vu que je l'avais vu. Je dis, tu sais, ton copain peut regarder. Il fait un geste du menton. Son copain s'assied sur le bord du lit. J'ai un public. Je me mets à genoux et je saisis à deux mains l'énorme perche qui lui sert de tub. Je sors les fesses et je bombe la poitrine. Je lance un regard de chienne en chaleur à son pote et je me mets à le sucer comme une professionnelle. D'abord la langue pendante, puis je mets la bouche autour et je fais des mouvements avec mes deux mains qui se croisent autour de sa bite ébène. Le bout est un peu de travers et c'est excitant. Il y a trop de peau, trop de sexe, trop de muscles autour. Et le regard de son pote devient humide d'excitation. Il n'en revient pas. Son jogging se dresse devant son érection. Le goût salé me prévient qu'il va gicler. J'accélère. Les doigts, les mains, les coups de langue, la bouche, j'aspire, slurp. Oh oui, regard en coin à son copain. Et quand il vient vraiment, je décale ma tête de 20 cm pour le laisser éjaculer dans la gueule de son pote. Oups, désolé. Je fais un petit sourire, je m'essuie les mains et la bouche ostensiblement sur ses draps, je fais un salut militaire, je ramasse mon sac à dos Nike noir et je sors mon portable pour tout raconter à Soren, qui rira tant qu'il en bandera, m'avait-il dit ce jour-là. Voilà, c'était un extrait de « À volonté » de Léa Rivière. Un texte avec des moments, je trouve, très forts, très touchants. On est dans la tête de cette femme et en fait, par flashback, on découvre toute sa vie, toute son histoire. Vraiment, je vous le conseille, un très 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 beau texte. « À volonté » de Léa Rivière, paru aux éditions Blanches. Vous pouvez retrouver l'article où je parle du bouquin, où il y a les liens pour se l'offrir sur mon site charlie-liveshow.com. Dans la barre de recherche, vous tapez « à volonté », vous allez tomber dessus, pam, direct. Et puis, c'est là aussi que vous pouvez retrouver tous les précédents podcasts des lectures érotiques. Eh bien, voilà, cet épisode est terminé. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.